Les Vierges, par Irène Mirovski. Ils s'étaient aimés. Ils n'avaient pas vécu heureux ensemble. Ils étaient violents et jaloux tous les deux, aussi incapables l'un que l'autre de résignation et de douceur. Mariés, ils avaient des querelles d'amants. Leur existence était traversée d'orages qui s'achevaient en réconciliation passionnée et tendre. Ils s'étaient rencontrés à l'âge de 20 ans. Ils en avaient 45 à présent. Elle avait été d'une grande beauté, mais pour son malheur, elle avait un de ces visages tourmentés dont le fard n'arrive pas à masquer les rides ni l'expression amère. Depuis la naissance d'une enfant venue sur le tard, qu'elle chérissait, mais qu'elle n'avait pas désiré, son corps lui-même, jadis admirable, s'était alourdi et déformé. Le mari paraissait jeune encore. Doué d'un caractère aventureux et inquiet, il n'avait pas pu se fixer en France. Il avait parcouru le monde. Autant que cela était possible, la femme l'avait suivi. Ils n'avaient pas de fortune. Ils avaient connu de durs moments. Ces dernières années, il avait fini par trouver du travail au Maroc. Il était architecte. L'âge venait, et avec lui la sagesse et la chance, disait-il en riant. Il était presque riche. Les mauvais jours s'effaçaient de leurs souvenirs. Alors il était parti avec une maîtresse. Maintenant, la femme et l'enfant revenaient en France seuls. La femme espérait trouver un refuge auprès de l'une de ses sœurs, institutrice dans un petit village du centre. Il y avait eu je ne sais quel malentendu à propos des heures de train, et personne n'attendait à la gare sous la neige les deux voyageuses. C'était ma mère et moi. J'avais 7 ans. Je ne comprenais rien. Je m'accrochais à l'ample jupe de ma mère. Je grelottais. Je regardais tomber les flocons transparents que la lanterne peinte d'un homme d'équipe éclairait alternativement d'un vert tremblant et doux et d'un rouge foncé de sang. On m'abandonna, pendant que ma mère s'occupait des bagages, dans une étroite salle nue où un poêle chauffait très fort. Puis je sortis de la gare, je me rappelle, et je traversai une petite place toute noire entourée de maisons endormies. Une voiture nous emporta quelques kilomètres de là, à travers une campagne désolée. Les champs couverts de neige projetaient vers le ciel sombre leur diffuse lumière. J'aperçus des fermes au bord d'une eau gelée, un mur en ruine, des sapins qui me parurent gigantesques. Le vent soufflait dans leurs branches et arrachait d'eux une vibration continue, musicale et plaintive comme celle qui s'échappe des fils télégraphiques par les jours froids d'hiver. Je pleurais tout bas. Ma mère voyait mes larmes, s'efforçait de me sourire. Elle avança la main vers moi et caressa tendrement mes cheveux. Cette main brûlait, et je sentais sur mon front une pulsation irrégulière et rapide. Je dis avec surprise, « Comme tu as chaud, maman. « Moi, je grelotte. » Elle ne répondit pas. Le trajet dura près d'une demi-heure. Les chemins étaient mauvais. Le temps me paraissait bien long et ma tristesse augmentait de minute en minute. Enfin, maman leva la tête et dit, comme la voiture s'arrêtait, « Nous sommes arrivés, Nicole. » Une porte s'ouvrit et il en sortit de la lumière, de la chaleur, les reflets d'un feu rougeoyant, des voix amicales, des rires et des exclamations et un parfum que je sens encore. Celui d'une soupe de campagne, d'un pot-au-feu cuisant dès le matin sans doute sur un feu de bois à l'ancienne mode. Le sifflement de ce feu de bois, son odeur, l'arôme un peu sucré du céleri qui dominait le tout, tout cela pénétra d'un extraordinaire bien-être mon petit corps transi. J'étais encore debout dans la nuit, dans le froid. Je n'avais pas franchi le seuil de cette belle cuisine, et déjà le passé, mon père, le soleil du Maroc, le voyage et ma fatigue étaient oubliés. Je n'avais presque plus de chagrin. Au-dessus de ma tête, des femmes pleuraient et s'embrassaient. Je les observais timidement. Elles étaient trois qui entouraient ma mère. Elles me parurent vieilles. L'une était courte et ronde avec de bonnes joues grosses et un peu tremblantes. La seconde, longue et mince, aux cheveux gris bien tirés. La troisième, ma tante Alberte, avait de grandes lunettes rondes qui chevauchaient un petit nez retroussé. Ma mère aimait beaucoup cette sœur. Quand elle en parlait, c'était comme d'une jeune fille. Elle ne l'avait pas vue depuis 20 ans. Je fus étonné de l'entendre appeler. « Alberte, ma chère petite Alberte, ma chère petite sœur, celle qui me paraissait une si vieille demoiselle. » J'appris par la suite que les deux autres personnes étaient une parente éloignée et une amie d'enfance de ma mère. La grosse se nommait Blanche et la maigre Marcel. J'ai oublié leur nom de famille. La première était employée des postes au village. L'autre, institutrice comme ma tante, était venue passer les vacances de Noël chez cette dernière. C'était un 23 décembre. Au salon, on avait dressé un sapin orné de guirlandes, de jouets et de friandises pour moi. On me le fit admirer, mais je ne voyais rien. Je dormais debout. La table était mise à la cuisine, tout était clair, chaud et brillant. J'avalais quelques cuillerées brûlantes de potage, puis je tombais dans un sommeil profond. Quand je me réveillais, j'étais couché sur un petit divan arrangé en lit dans la chambre de ma tante. La porte de la salle à manger demeurait ouverte et je voyais les quatre femmes assises près du feu. Il devait être très tard. Elles avaient parlé à voix basse d'abord, sans doute pour ne pas me réveiller, puis elles avaient oublié ma présence et j'entendais chaque mot. Ma mère racontait comment mon père s'était enfui avec une maîtresse. Ses paroles étaient entrecoupées de larmes, de soupirs, d'imprécations. « Tais-toi, Camille, tais-toi, tu me fais mal, » disait ma tante avec pitié. « Non, laisse, au contraire, ça me soulage, » répondait ma mère. « Tout ça m'étouffait. » Je la voyais porter ses mains à sa gorge comme si, véritablement, elle éprouvait une sensation physique de suffocation. Ses pleurs coulaient. « Il m'a rendue trop malheureuse, » disait-elle. « Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. Je l'ai trop aimée. Aimer un homme à ce point, même s'il est votre mari, c'est un péché, je crois. Du moins, je me sentais coupable. C'était trop. J'étais hypnotisé par lui. Si vous saviez dans quelles conditions il m'a fait vivre. Je l'ai suivi dans des bleds où aucune femme d'Européen n'aurait consenti à vivre. C'était au temps où il construisait un palais pour un petit potentat africain. Et encore là, ce n'était pas le pire. Il n'y avait que les indigènes dont je pouvais être jalouse. Mais à Casa, vous ne savez pas ce que signifie vivre dans l'angoisse. Se réveiller en pensant « Il n'est plus là, il est parti et ne reviendra pas. » L'attendre, l'attendre encore. Le voir, cette joie aiguë, presque désespérée. Enfin, il est là. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. C'est qu'il n'était pas infidèle à la manière des autres maris qui courent, mais, comme les chiens, finissent toujours par revenir à la tâche. Moi, je savais qu'un jour, il partirait pour de bon. Il ne l'avait pas caché. « Ma petite, tu m'as gardé 25 ans, disait-il. C'est un tour de force. Mais un jour, je m'échapperai. » Méchant, non, il n'était pas méchant, mais terrible, indocile, un véritable tempérament d'aventurier. Il me regardait parfois avec une sorte de stupeur, comme si véritablement il ne me reconnaissait pas, comme s'il pensait « Qu'est-ce qu'elle fiche donc ici, cette femme ?» L'enfant. Mais les hommes comme lui n'ont pas des cœurs de père. Je n'ai pas à le blâmer d'ailleurs. Moi seul, je suis coupable. Jamais je n'aurais dû l'épouser. Nous avions 20 ans tous les deux, mais déjà ils se connaissaient. Ils savaient de quel sang ils sortaient. Son père était parti de même un beau jour, laissant sa famille. Il a disparu. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. Je n'aime pas l'argent. Je n'aime ni les cartes, ni le vin, ni les femmes, disait mon mari. Mais j'ai une passion, le changement. Sortir de son ancienne vie comme le serpent se dépouille de sa peau. Je te préviens que je te ferai souffrir. Mais moi, je n'ai pas voulu le croire. Mon Dieu, pourquoi ne t'ai-je pas imité, Alberte? Pourquoi ne suis-je pas resté seul et tranquille, sans homme, comme vous? Je vous regarde et je vous envie. Alberte, est-ce que tu sais à quel point tu es heureuse? L'amour, l'amour, quelle horreur, quel mensonge! S'écria ma pauvre mère. Mais, dit doucement la grosse blanche, tous les mariages ne sont pas... C'est la vie qui est affreuse! Vous êtes à l'écart de la vie, vous avez raison. La vie ne peut faire que du mal, mutiler, salir, blesser. Ce sont les hommes qui disent qu'il n'y a pas de vie pour la femme en dehors de l'amour. Mais vous qui vivez seule, n'êtes-vous pas heureuse? Regardez-moi. Je suis seule comme vous à présent, mais non pas d'une solitude choisie, recherchée, mais de la pire solitude, humiliée, amère, celle de l'abandon, de la trahison. Je n'ai pas de métier. Rien pour occuper mon cœur et distraire mon esprit. L'enfant, mais c'est un regret, c'est un souvenir vivant qui me poursuit. Vous, vous êtes heureuse. » Il y eut un assez long silence. Ma tante Alberte se leva pour arranger le feu. Elle souffla longuement sur le bois qui ne voulait pas brûler et se plaignit. « Ils m'ont livré du bois humide. Tu l'entends qui pleure ?» En effet, un chuintement, un sifflement, un miaulement plaintif s'élevait de la cheminée. J'écoutais, fasciné, et j'imaginais ce bois pleurant, ces tronçons de bouleaux, de cerisiers ou de chênes qui répandaient autour d'eux leurs larmes en grosses gouttes d'argent. « Ma pauvre Camille, » dit enfin ma tante, « je t'avoue que je n'ai jamais envié ton sort. Je suis parfaitement heureuse, il est vrai. J'ai un métier qui m'intéresse, une petite aisance. J'aime les enfants, j'aime enseigner. Je me plais à la campagne. Ce qu'il y a de bon ici, tu verras, c'est que c'est la vraie campagne, un peu sauvage. Pas le petit trou de province où les gens sont à l'affût des potins. La nature est très belle, et tu le vois, j'ai ma maison. Les autres l'approuvèrent. Oui, il est certain que ton exemple, Camille, n'encourage pas à l'amour. Ne disons pas au mariage, mais à l'amour. Moi, dit Marcel, je n'aurais pas pu supporter une existence pareille, tout ce que tu as enduré. Naturellement, au début, tu as été heureuse. Je n'ai jamais été heureuse, dit vivement ma mère. Nous étions mariés depuis 5 mois quand j'ai appris qu'il me trompait. C'était au premier temps de ma grossesse. Vous ne le savez pas, mais une femme, à ces moments-là, se sent si faible, si inquiète. Elle a tellement besoin d'une présence constante qui la rassure. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Moi, je savais qu'il me trompait et qu'il n'y avait rien à faire. Le quitter ou fermer les yeux, j'avais le choix. Je l'aimais, j'ai tout accepté. Oh non, non, je ne peux même pas dire que j'étais heureuse. Les vieilles filles murmuraient des paroles de consolation, de tendresse. Ma tante dit avec douceur, « Viens ici, viens t'étendre près du feu, ma pauvre Camille. Va, nous te dorloterons, nous te ferons oublier les mauvais jours. Est-ce qu'il n'est pas agréable de nous retrouver tout ensemble comme autrefois, comme la vie est bizarre? Est-ce que vous pensez quelquefois qu'à chacune de nous, à un moment donné, il est arrivé quelque chose qui a infléchi sa destinée dans telle ou telle direction? Tu m'as souvent raconté, Camille, ta première rencontre avec ton triste mari. » Oui, dit ma mère, il était de passage dans notre petite ville. Il allait visiter l'église, et moi, maman m'avait envoyé chercher du fil rose chez la mercière. Au moment de sortir, je me suis regardé dans la glace. J'ai trouvé que mon chapeau ne m'allait pas. Je suis rentré, j'ai pris mon chapeau neuf, et en sortant, sur le seuil de notre porte, Henri et moi, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes regardés, nous nous sommes aimés. Eh bien, 5 minutes plus tard, il s'en allait d'un côté et moi de l'autre. Nos chemins ne se croisaient pas et je vivais tranquille, comme vous, jusqu'à la vieillesse. Moi aussi, dit la grosse blanche en riant, moi aussi je peux me rappeler le moment précis qui a changé ma vie. Je ne vous l'ai jamais raconté, cela m'humiliait trop. J'avais 20 ans. J'étais amoureuse de... Bon, je ne vous dirai pas de qui. C'est trop tard maintenant. Il est mort. Il a laissé 5 enfants et sa veuve n'a pas le sou. Une grande rousse, à la poitrine plate. Je la vois quelquefois quand je suis en visite chez mes parents. Et bien un jour, je savais qu'il allait me dire, me proposer, me demander... Enfin, elle eut un petit rire puéril. Vous savez, une femme ne se trompe pas à ces choses-là. Je savais qu'il allait me demander en mariage. Nous étions seuls, nous étions timides. Il s'est approché de moi et à cet instant j'ai senti craquer l'épaulette de ma chemise. J'avais une blouse légère avec des entre-deux de dentelle, comme c'était la mode en ce temps-là. Et si ma chemise tombait, on allait voir ma poitrine. D'abord, nous n'étions pas de petites effrontées comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Montrer sa poitrine à un homme, quelle horreur! Mais je crois, je vous le dis en confidence, que si j'avais une poitrine parfaite... Hélas, j'ai toujours été un peu grasse. Alors j'ai poussé un cri, je suis devenu très rouge et presque en pleurant, j'ai dit « Ne m'approchez pas, Eugène, ne m'approchez pas !» Il était désolé, le pauvre garçon. « Mais pourquoi, Blanchette? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vous fais peur ?» Je ne pouvais que répéter en croisant farouchement mes bras sur mes seins. « Allez-vous-en, je vous dis de vous en aller !» Il a cru qu'il me faisait horreur, il m'a quitté. Le lendemain, il m'a salué très froidement et jamais plus... Elle soupira. Voyez, si ma chemise avait été faite d'un tissu plus solide, je restais veuve avec 5 enfants et sans fortune comme cette pauvre rousse. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, dit machinalement ma tante. Marcel intervint. Je ne suis pas de votre avis. Ce n'est pas une question de hasard, mais d'instinct. Une de mes collègues, vieille fille comme moi, quand on lui demande pourquoi elle ne s'est pas mariée, répond « Ça s'est trouvé comme ça. » Mais non, ce n'est pas exact. On a la vocation du mariage ou on ne l'a pas. Mariage, amour, vie, tout simplement. On veut vivre de toutes ses forces ou on désire la paix. Moi, j'ai toujours désiré la paix. Je me suis imaginé, pendant quelque temps, que j'aimerais être religieuse. Puis j'ai compris que ce n'était pas Dieu qu'il me fallait, mais être tranquille et seul, avec mon petit train-train, mes chères habitudes. Un homme, grand Dieu, que ferais-je d'un homme? Un homme, répéta ma mère en écho. Et après un silence, elle ajouta, « Tu as raison, Marcel. Ce n'est pas une question de hasard, mais d'instinct, et même de désir. finalement on obtient toujours ici-bas ce qu'on a désiré avec violence. Et c'est notre plus grande punition, acheva-t-elle. Je pensais confusément que son ton, sa manière de parler, tout avait changé en une heure. Et à partir de cette nuit-là, en effet, elle ne fut plus jamais la même. Elle devint une dame de la campagne, un peu forte, occupée à la cuisine, au potager et au jardin, soignant les poules et les malades pendant que ma tante était à son école. Elle s'apaisa au point de répondre, quelques années plus tard, à mon père qui voulait reprendre la vie commune. « C'est comme si tu demandais à un aliéné guéri de revêtir à nouveau la camisole de force, mon pauvre enfant. » Mon père mourut quelques mois plus tard, brusquement, en plein bled, tout seul. Cette nuit dont je parle est restée dans mon souvenir. J'écoutais ces femmes, je regardais le feu. Je comprenais à demi. Je voulais dormir, mais leurs paroles me tenaient éveillé. La maigre Marcel tricotait. J'entendais le cliquetis ténu des aiguilles d'acier et le son de ses paroles. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants, comme vous le savez. 10 enfants dans une famille de pauvres, dans un logement étroit, vous pensez que je devinais bien des choses. Moi, je n'ai jamais rêvé à l'amour, ni au mariage, ni à la maternité. Je connaissais l'envers de tout ça. L'air farot du père qui s'en va au café et qui laisse la mère à la maison se débrouiller avec ses gosses. Se débrouiller, oui, ou mourir à la peine comme elle l'a fait, la pauvre femme. Elle est morte en mettant au monde le 11e enfant, le dernier, mon frère Louis. Et qu'on ne vienne pas me parler des bébés et du bonheur de les soigner, de les dorloter. Je sais ce que c'est, moi. Je sors d'en prendre. J'étais l'aîné, vous comprenez. C'est moi qui aidais à la lessive, au ménage, à la confection des biberons. Moi qui le réveillais avec leurs pleurs. Moi qui voyais ma pauvre mère, lasse, flétrie, à 30 ans, l'air d'une vieille. Sans jamais un moment de répit, travaillant à la maison, travaillant au jardin, toujours un gosse pendu à sa main ou à sa jupe, un autre dans ses bras. Oh non, je n'ai jamais désiré un homme ou des bébés. Dieu merci, je suis bien tranquille. Je gagne ma vie, j'ai mon jardin, ma petite maison, des fleurs, des bêtes. J'ai des fêtes pour cette vie-là et pas pour une autre. Et toi aussi, Blanche. Si tu avais été une amoureuse, tu n'aurais pas repoussé ce jeune homme. Tu aurais oublié ta pudeur et même ta crainte de n'être pas assez belle à ses yeux. Si tu avais été une amoureuse, tu aurais senti d'instinct que ton amour t'embellissait. Je n'étais qu'une enfant, j'avais 7 ans, mais j'étais frappé de la manière dont ces vieilles filles prononçaient les mots amour, mariage, maternité, enfant. Quelle voix, amère et tendre. « Toi pourtant, Albert, » dit ma mère en mettant sa joue dans sa main, en regardant pensivement le feu, « toi pourtant, tu semblais créé pour l'amour. D'abord, tu étais jolie. Oh non. » protesta ma tante. « Si, tu étais la plus jolie de nous toutes. Encore maintenant, tes traits sont beaux et fins. Si tu n'aimais pas ces affreuses lunettes. Mes pauvres yeux, » soupira ma tante. « Ah, ma vieille Albert, à 17 ans que tu aimais rire et t'amuser et plaire. Et tout à coup, tu as changé. Pourquoi ?»« Changé, » dit ma tante. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, tu refusais toutes occasions de sortir, de fêtes, de promenades. Tu fuyais les jeunes gens. Pourquoi ?» J'ai cru un instant à une vocation religieuse, puis j'ai pensé que tu avais aimé quelqu'un qui n'avait pas voulu de toi. « Je n'ai jamais aimé personne, » dit ma tante Alberte. « Et sais-tu pourquoi ?»« Je te voyais, Camille. Je comprenais à quel point tu étais malheureuse. Oui, tu croyais cacher ta vie à la famille et sans doute papa et maman ignoraient tout, mais pas moi. Tu sais que je t'ai toujours tendrement chérie. Tu étais ma sœur préférée. Par ton mariage romanesque, par ton obstination à épouser Henri malgré la volonté de nos parents, tu avais acquis à mes yeux un prestige extraordinaire. Tu étais pour moi un enseignement vivant et un exemple. Si tu avais été heureuse, je t'aurais imité. Mais un jour, j'ai été témoin d'une scène. Oh, c'était affreux. » Une scène, fit ma mère d'un ton bas, et elle haussa les épaules, comme pour exprimer qu'il n'en avait tant eu et qu'elle ne signifiait rien. Ma tante s'était redressée sur sa chaise. Elle ôta ses lunettes d'un mouvement vif, et je m'aperçus qu'en effet elle était jolie encore. Ce petit nez retroussé, impertinent et fin, la courbe de ses belles paupières, le dessin ferme et rond des joues juré avec ses robes démodées, sa coiffure de vieille, cette rigidité qu'il venait sans doute de son attitude habituelle de professeur, très droite, dominant ses élèves, et le point de mire de tous les regards. « Oh, mais cette scène-là, Camille, je suis sûr que tu ne l'as pas oubliée. En tous les cas, elle a fait sur moi une impression extraordinaire. C'était... » Elle s'interrompit. « Mais tu ne bois pas ton vin chaud ? » s'écria-t-elle avec reproche. Elle éleva un instant entre ses mains un verre plein d'un liquide qui répandait une riche et chaleureuse odeur d'alcool et de cannelle. Ma mère but à petite gorgée. Ma tante continua. « Tu étais mariée depuis un an, je crois. J'étais en visite chez vous à Paris. Devant moi, vous ne vous étiez jamais querellée, et je ne pouvais imaginer entre époux une intimité différente de celle de mes parents. Quelque chose d'ineffablement exquis et paisible qui était à mes yeux l'essentiel même de l'amour. J'avais alors 17 ans, et je disais volontiers « Moi, je ne ferai jamais un mariage de raison, mais d'amour, comme ma sœur Camille. » Et voici qu'une nuit, elle frissonnait encore à ce souvenir. Elle plia les épaules et tendit les mains d'un geste frileux vers la flamme. Un soir, vous étiez allé au concert, et moi, comme j'étais enrhumé, je n'avais pas voulu vous suivre. J'étais réveillé par un bruit de voix irritée. Ma chambre était voisine de la vôtre. J'ai entendu, sortant de ta bouche, Camille, des paroles. Oh, elles me glacent encore quand j'y pense. Tu répétais d'une voix sourde et monotone comme une plainte. Je voudrais être morte, Henri. Je voudrais être morte. Je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé entre vous, mais il était question d'une autre femme, et lui, il n'essayait pas de se disculper ou de te consoler. Il riait, la brute. D'un rire si cruel, si insolent, si impitoyable, que si j'avais été un garçon, je lui aurais cassé la figure en deux. Mauvais homme, sans cœur. Puis vous avez parlé tous les deux très haut, vous jetant à la tête des injures que j'écoutais, le cœur battant, bouleversé de crainte et de pitié. Ma pauvre Camille, ma sœur chérie. Cette nuit-là, il t'a battue. J'ai entendu tes cris. Je me bouchais les oreilles. J'enfonçais ma figure dans le traversin. Je me cachais sous les draps pour échapper à ses plaintes, à ses cris, mais il me poursuivait encore. Dieu, pensais-je, c'est ainsi que finit l'amour. Des baisers, des caresses pour commencer et ensuite des coups. Et une femme peut perdre à ce point toute fierté de soi. Pardonne-moi, Camille, je sais que tu l'aimais encore et que d'autre part, tu aurais préféré mourir, comme tu l'as dit souvent, plutôt que d'avouer la vérité à ta famille. Mais tout de même, un pareil abaissement, toi, si fier. J'attendais le lendemain avec épouvante. J'étais prête à te dire, quitte-le, reviens avec moi, chez nous, je te dorloterai, je travaillerai pour toi. Enfin, ce que je te dis aujourd'hui, acheva ma tante d'une voix très douce. Pauvre Camille, tu as bien souffert, mais tu m'as rendu cette nuit-là un grand service. Je t'ai quitté le lendemain. Je suis retourné chez nous. Je n'ai rien osé te dire, et d'ailleurs, tu décourageais les confidences. « Je suis heureuse, petite sœur, disais-tu alors. Le temps a passé, mais l'impression affreuse de cette nuit est demeurée si vive que lorsque des hommes me disaient des paroles d'amour, j'entendais de nouveau tes gémissements, tes cris, sans rire, et l'homme me faisait horreur. C'est pour cela que je ne me suis jamais marié. Quant au mariage arrangé par les parents, je n'en ai pas voulu. Toi, tu as oublié cette nuit. » Il y eut un silence entre elles, si long que j'allais m'assoupir. Je fermai à demi les yeux, puis un soupir me réveilla. Je regardai machinalement ma mère. Elle avait bu le vin chaud. Un peu de couleur était montée à ses joues. Elle semblait détendue, mystérieusement apaisée et détachée de tout. Elle soupira encore 2-3 fois. « Je ne l'ai pas oublié, Albert. Cette nuit-là, si tu savais. Mais tu ne peux pas comprendre cela. Il faut être femme, avoir été faite femme. Tu comprends » dit-elle d'un ton bas, secret et gomonteux, et avoir eu un amant jeune pour le comprendre. « Eh bien oui, il m'a injurié, frappé. Il s'est moqué de moi. » Mais après, oh Albert, innocente, naïve Albert, si tu étais entrée dans notre chambre, tu aurais vu que nous échangeons des baisers meilleurs, d'un autre goût que les fades baisers donnés par papa à maman, et dont tu parlais tout à l'heure. Albert, je t'ai dit que je n'ai jamais été heureuse, c'est vrai, 1000 fois vrai, mais ce n'est pas du bonheur. C'est un goût que l'amour seul peut donner à la vie, un goût de fruit, sapide, juteux, presque un peu âpre, un goût de jeunes lèvres. « Un goût de cendre, pour finir, » dit sévèrement Marcel. « Oui, mais vous ne me comprenez pas. L'amour naît de la douleur, se nourrit de larmes. Cette nuit-là, Albert, a été la plus belle, peut-être, de toute ma vie. Je ne dis pas la plus heureuse, mais la plus belle, la plus comblée. J'avais pleuré, et il buvait mes larmes. Et j'entends encore l'aspiration légère, le petit bruit haletant de ses lèvres. Tu dis, tu acceptais tout parce que tu l'aimais encore. Et dans ta bouche, ces mots, tu l'aimais, sont fades et froids, mais pour moi. Ah, je ne sais pas si je l'aimais ou non. C'est à peine une question d'amour. J'avais besoin d'une inflexion de voix, d'un bruit de pas, du contact de sa main sur ma nuque, de ses coups et de ses baisers. Besoin comme de pain, d'eau et de sel. C'était étrange. Les paroles de ma mère étaient pauvres et malhabiles et son ton égal et monotone, sans passion. Oui, vraiment. Il ne restait plus trace de passion en elle, aurait-on dit. Mais elle avait l'inimitable prestige de l'expérience. Elle parlait à ses vieilles filles comme un musicien, un artiste, un créateur de génie à de petites demoiselles de pensionnat qui jouent la sonate au clair de lune avec des hésitations, des fausses notes et des repentirs. Par moments, lorsqu'elle prononçait le nom de mon père, sa bouche faisait un mouvement étrange qui tenait le milieu entre la morsure et le baiser. Je crois que pour la première fois de sa vie, elle parlait son amour. Elle éprouvait de l'aversion envers toutes les femmes qui lui semblaient des rivales en puissance. Elle n'avait pas d'amis. Mais ses trois vieilles compagnes étaient sûres. Elle ne prendrait pas l'homme chéri. Elle se confiait à elle. Elle commença à parler avec réticence, puis elle se laissa entraîner par le flot des souvenirs. Et sans doute, à mesure qu'elle parlait, l'amour la quittait. Il s'échappait de son cœur comme le parfum fuit un flacon débouché. Je vous dis qu'à partir de sa première nuit en France, elle se mit à oublier mon père. Elle disait encore avec une profonde pitié, « Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Ainsi, toi, Marcel, tu ne t'es pas marié parce que l'exemple de ta mère t'épouvantait. Une grande famille, pas d'argent. Certes, cela fait peur. J'ai connu ta mère. Je me rappelle cette malheureuse, toujours grosse, épuisée d'enfants. Mais si tu savais. Tiens, lorsque la petite est née, je la nourrissais. J'avais des crevasses au sein. C'est une douleur dont tu peux à peine te faire une idée. On dirait que l'on t'enfonce la lame d'un couteau dans le sein et qu'on coupe l'intérieur en deux comme un fruit. Et pourtant, lorsque le lait coule, mêlé de sang parfois, dans la bouche d'un petit qu'on a fait... Ah, ma pauvre Marcel, c'est la vie, que veux-tu, la vie toute crue. » Ma mère se tut. J'entendis le tintement du verre vide qu'elle reposait sur la table. Ses cheveux s'étaient dénoués. De grands cheveux, longs et un peu raides, noirs, avec des mèches grises. Elle avait un beau visage que je revois encore, raviné, douloureux, creux, ravagé comme un labour d'automne. Les femmes autour d'elle se taisaient. Blanche, la plus douce, soupira. C'est certain, elle n'acheva pas. Marcel dit fièrement, la bouche pincée, « À d'autres ces plaisirs-là, ma chère, je t'assure. » « Mais tu disais tout à l'heure, » s'écria tante Albert, « tu disais que j'avais été malheureuse. » Interrompit ma mère. « C'est vrai, je vous envie. J'envie vos existences tranquilles, mais j'étais riche, vous comprenez? J'étais comblée. Et vous, vous n'avez jamais rien eu. » Alors Albert, ma tante Albert, laissa tomber son tricot, porta ses mains à ses paupières et tout à coup éclata en sanglots. Ma mère, étonnée, désolée, s'était levée lourdement et allait vers elle. Ma tante la repoussait. « Qu'est-ce qu'il y a, Albert chéri? Je sais, je comprends, tu as pitié de moi, tu pleures. Pitié de toi ? » répondit Albert. « Oh non, pas de toi, Camille. » Elle acheva avec une rancune douloureuse. « Tu n'aurais jamais dû nous raconter tout ça, ma pauvre sœur. » Ainsi s'achève Les Vierges par Irène Nemirovski.